carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Annie Regon.
Bonjour, ici Annie Regon, bienvenue dans ce carrefour des arts consacré une fois de plus à Émile Malle. Aujourd'hui, nous allons envisager Émile Malle en tant que directeur de l'École française de Rome, et ceci en liaison étroite avec l'Académie des inscriptions, puisque nous allons voir qu'à plusieurs étapes de la vie du directeur et des élèves, l'Académie a son rôle à jouer. Donc, nous avons déjà évoqué la biographie d'Émile Malle, je vous renvoie à une précédente émission, mais il y a un épisode qui est important pendant sa carrière. Entre 1923 et 1937, il dirige l'École française de Rome. Cette École française de Rome, donc, qui est une institution importante et qui a toujours entretenu des relations privilégiées avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc, le 22 avril 1922, le directeur de l'école, Monseigneur Duchesne, meurt brutalement. Il était à la tête de l'école depuis déjà 1895 et il avait connu des périodes difficiles puisqu'il avait subi de plein fouet le conflit entre l'Église et l'État en France, mais il avait été lui-même critiqué par sa hiérarchie. Il avait été mis à l'index en 1912, il avait été interdit de parole, enfin c'était quelqu'un qui avait connu des moments assez difficiles, mais il avait assuré très bien son rôle de directeur. Et lorsqu'il meurt, eh bien sa succession n'est pas vraiment prête. Il avait envisagé de demander à Pierre de Nolhac, qui est connu comme historien de Versailles, entre autres, de lui succéder, mais rien n'avait été vraiment préparé. Le directeur de l'École française était et est toujours nommé par le ministre en ce temps-là de l'instruction publique devenu Éducation nationale. Ce directeur donc dirige une école qui n'est pas véritablement une école puisqu'il n'y avait surtout en ce temps-là pas de cours qui étaient dispensés. Cela ressemble beaucoup plus à un centre de recherche. Mais donc, c'est le ministre de l'Instruction publique qui devait nommer le nouveau directeur. Mais ceci se faisait en étroite collaboration avec l'Académie des inscriptions. L'Académie comporte une commission, la commission des écoles françaises d'Athènes et de Rome, qui se réunit et qui soumet au vote donc, de ses confrères le nom du directeur. Alors, il y a plusieurs personnes qui étaient sur les rangs. Jérôme Carcopineau, mais il avait 7 enfants, ça a effrayé un petit peu l'ambassadeur qui habite en dessous de l'école. Il y avait Charles Dill aussi, qui était un personnage intéressant, un grand érudit, mais il était protestant, donc ça aurait indisposé le Vatican. Donc finalement, c'est Émile Malle qui est proposé par l'Académie et il est élu le 19 octobre 1923 et il est nommé le 29 octobre 1923. Et il va donc rester en poste jusqu'à 1937. Lorsque Émile Malle arrive à la tête de l'école, il a donc déjà 61 ans. Ce n'est pas un débutant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a une très longue carrière derrière lui puisqu'il avait commencé très tôt. Et il a publié tous ses ouvrages sur l'art religieux de l'époque médiévale sont déjà publiés, voire même certains republiés, puisqu'il avait commencé par l'art religieux au XIIIe siècle, puis l'art religieux au XIIe siècle, puis l'art religieux à la fin du Moyen-Âge, qui venait juste de paraître à ce moment-là. Il était déjà membre de l'Institut, et donc il était tout à fait à même de diriger les recherches de jeunes chercheurs. Il va d'ailleurs continuer sa propre carrière, ses propres recherches, il va les continuer de manière tout à fait passionnante pendant son séjour à Rome, puisque, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, il publie l'art religieux après le Concile de Trente, après avoir longuement visité la ville. Mais c'est tout de même une nouvelle phase de sa carrière qui commence, qui est tout de même assez différente de la précédente. Alors, quel est le rôle du directeur de l'école à ce moment-là? D'ailleurs, actuellement, c'est un petit peu similaire avec quand même un certain nombre de différences. Eh bien, il doit essentiellement encadrer les recherches des membres de l'école et il doit les guider dans leurs travaux. Alors, qui sont les membres à cette époque? À ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de personnes qui sortent de l'université, mais ce sont de jeunes chercheurs qui sortent de l'École des Chartes, de l'École normale supérieure ou de l'École des hautes études. Alors, certains d'entre eux arrivent avec déjà un sujet en tête. D'autres doivent déterminer leur sujet de recherche et naturellement, ils le font en relation avec le directeur. Et c'est très important puisqu'ils doivent rester un an, généralement ils restent 2 ans, exceptionnellement 3. Ils rédigent un mémoire et ce mémoire est soumis justement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et donc entre 1924 et 1937, 42 mémoires ont été envoyées donc par Émile Malle donc suite aux travaux de ses pensionnaires. Les sujets portent sur naturellement tout ce que l'on peut trouver en Italie, mais Dieu sait si le fonds est riche autant au point de vue bibliothèque, archives qu'au point de vue monument. Généralement, les chercheurs qui sortent de l'École normale supérieure travaillent sur des sujets archéologiques, sur des sujets ayant trait à l'Antiquité. Ceux qui sortent de l'École des chartes et de l'École des hautes études ont plutôt des sujets ayant trait à l'époque médiévale, généralement en histoire ou en histoire de l'art, les deux étant souvent d'ailleurs très proches, très mêlés. Alors à ce moment-là, il y a un problème qui se pose. L'Italie est dans une phase historique qui va devenir assez difficile, assez lourde, puisque c'est l'époque de la montée du fascisme. Il y a des réactions nationalistes assez, on va dire, antipathiques aux étrangers, et il est interdit aux étrangers à ce moment-là de fouiller en Italie. Donc, il n'est pas question pour les protégés d'Émile Malle de publier des fouilles sur le sol de Rome, comme c'est le cas encore actuellement aujourd'hui. Ils doivent chercher ailleurs leur terrain. Et c'est là où on s'aperçoit que, à ce moment-là, eh bien, Rome est la tête de pont de la recherche archéologique en Afrique du Nord. On est en pleine époque coloniale et donc, on va envoyer les jeunes archéologues qui ont besoin de terrain donc pour faire leur travail de recherche, on va les envoyer en Algérie, en Tunisie. Et naturellement, tout cela est très important puisque c'est vraiment le début de la recherche archéologique dans ces pays qui se passe donc sous l'égide de l'École française. Tous les rapports sont envoyés régulièrement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ce qui, naturellement, est très important puisque c'est des rapports que l'on peut encore consulter aujourd'hui et qui sont encore très consultés. Donc, une partie, en fait, des élèves d'Émile Malle se trouve dispatchée assez loin, finalement, de Rome, mais ils reviennent régulièrement à Rome pour remettre en forme leurs travaux puisque toute campagne de fouilles, naturellement, donne lieu à des rapports qui doivent être très circonstanciés et en ce temps-là, on avait beaucoup moins de moyens de cartographie et des moyens informatiques qu'il n'y en avait pas. Donc, le rapport de fouille était un travail qui était beaucoup plus long et difficile qu'il ne l'est devenu aujourd'hui. Alors, parmi les travaux les plus notables qui ont été accomplis à ce moment-là, il y en a certains qui sont restés célèbres. Je pense en particulier au travail qu'avait fait Pierre Grimal en 1937, donc peu avant que Émile Malle ne quitte l'école. Il avait écrit une thèse sur la peinture romaine et les jardins qui est encore utilisée aujourd'hui par les chercheurs parce qu'il avait fait un travail qui mêlait à la fois les découvertes archéologiques, l'étude des textes et puis aussi surtout l'étude de l'iconographie des peintures de Pompéi, des peintures également que l'on peut trouver à Rome. Et ce travail de Pierre Grimal sur la peinture et les jardins est encore aujourd'hui un des mémoires les plus employés, les plus utilisés parmi ceux qui ont été écrits à ce moment-là. Naturellement, l'archéologie n'est pas le seul objet d'étude pour les personnes qui se trouvent à l'école française. Et Émile Malle n'est pas du tout directif. En fait, il laisse chacun travailler sur ce qui lui plaît. Il se contente, c'est peu dire, mais c'est quand même très important, d'ouvrir les portes aux chercheurs. C'est-à-dire qu'il il leur permet de rencontrer d'autres personnalités, d'autres chercheurs. Il leur permet aussi d'accéder aux fonds des bibliothèques qui sont des fonds très très riches, en particulier à la Bibliothèque du Vatican, qui est un fonds immense et qui est loin d'être employé encore complètement, même encore actuellement. Donc, Émile Malle joue le rôle, en fait, d'un passeur entre ces jeunes chercheurs et les fonds disponibles à Rome. Il fait ça très, très bien et il le fait avec enthousiasme. Enfin, on sent qu'il est très heureux. Il écrit ceci au moment du 50e anniversaire de l'école, en 1931, 50e anniversaire qu'il a présidé. On voit ce que l'on peut obtenir de jeunes gens qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont de la science, mais qui ont quelque chose de plus précieux encore, de l'ardeur et de la flamme. On peut tout espérer des jeunes gens qui se passionnent pour ce qu'ils étudient. Ils se partagent dans le domaine de l'histoire. Donc, les élèves de l'école normale façonnés par les études classiques se consacrent d'ordinaire à l'Antiquité, ceux de l'école des Chartes et de l'école des hautes études au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ils arrivent tous avec une curiosité, un goût, un rêve à réaliser. Ceux qui n'apportent que leur bonne volonté ne tardent pas, après quelques semaines passées dans les murs et dans les musées de Rome et aux archives vaticanes, à découvrir tel sujet avec lequel ils vont vivre. Il faut que ce sujet soit assez précis pour exercer toutes leurs facultés critiques, mais assez vaste aussi pour mettre en mouvement les parties les plus hautes de leur esprit. Il importe que l'œuvre puisse former l'ouvrier. Souvent, ces sujets ont assez d'ampleur pour devenir des thèses de doctorat. Donc, on voit très bien comment il procède. Il essaye de leur ouvrir l'esprit et de leur ouvrir des portes. Et c'est vraiment un travail magnifique qui a été accompli pendant ces années-là. Nous retrouvons Émile Malle à Rome. Nous le retrouvons au Palais Farnèse, où il accueille les jeunes chercheurs et où il les aide dans leurs travaux et dans leurs publications, donc publications qui sont envoyées à l'Académie des inscriptions, où ils sont, ces mémoires font l'objet d'un travail critique après de la part de l'Académie, ce qui est vraiment très important. Alors, lorsque Émile Malle est à l'école française, naturellement, nous avons évoqué ce rôle qu'il joue auprès des jeunes chercheurs, mais il a joué aussi un rôle très important, me semble-t-il, de représentant de la culture française. En effet, tout le monde sait qu'à Rome, il y a la terre entière. Il y a d'abord, chaque pays a deux ambassades, une ambassade auprès du gouvernement italien, une ambassade auprès du Saint-Siège. Il y a également des centres culturels et également des écoles archéologiques. À l'époque d'Émile Malle, il y avait déjà un institut allemand, un institut hellénique. Il y avait aussi l'Academia Belgica, qui était une académie dirigée par Franz Cumont, qui était un grand chercheur et un grand ami d'Émile Malle d'ailleurs. Donc, grâce au contact que Émile Malle a pu nouer avec ces institutions étrangères, on peut dire que l'école française a rayonné sur toute l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est encore vivant aujourd'hui. On est frappé quand on va à Rome de la proximité qui existe entre tous les instituts et tous les chercheurs qui viennent un petit peu du monde entier maintenant pour accomplir des recherches à Rome. On sait très bien que Émile Malle a été très apprécié des directeurs des centres culturels et des centres de recherche étrangers. En 1931, nous l'avons déjà évoqué, il a célébré le 50e anniversaire de l'école, donc le cinquantenaire de l'école française, et ça a été l'occasion pour lui de publier une histoire de cette école. Et ça a été aussi une occasion pour lui de recevoir justement des représentants des autres pays présents à Rome. Et on se rend très bien compte que l'école a joué un rôle vraiment fondamental dans la connaissance et dans le rayonnement de la culture française, pas seulement à travers les écrits, les sujets de recherche archéologique, mais aussi à travers, la présence de très nombreux Français qui venaient à l'école rendre visite à Émile Malle. Il y a des écrivains assez nombreux qui sont passés par là, comme par exemple François Mauriac, ou bien il y a eu aussi, il était en relation aussi avec Valérie Larbeau, avec vraiment beaucoup de personnes. Et tout ça a contribué notablement au rayonnement de la langue française aussi. On peut dire aussi, ça c'est bien connu, que Émile Malle était un excellent historien, mais aussi un grand écrivain. Il écrivait vraiment d'une manière très très agréable. Et avec lui, c'est, je pense, toute la culture française qui a rayonné pendant donc ces 14 années de direction. Actuellement, si vous êtes intéressé par les travaux d'Émile Malle et par son rôle, le rôle qu'il a joué donc à l'école française, eh bien, vous pouvez vous reporter à un volume qui a été publié par l'école française de Rome, qui s'intitule « Émile Malle, la construction de l'œuvre Rome et l'Italie ». Là, on se rend compte de tout le travail qu'il a accompli à ce moment-là. Je précise également qu'une grande partie de ces courriers scientifiques sont conservés dans le fond des archives de l'Institut. Donc, il y a une proximité entre l'œuvre d'Émile Malle et l'Institut qu'il faut souligner. Et je pense qu'il y a encore certainement des archives à exploiter que l'on pourrait peut-être utiliser pour de nouvelles recherches parce que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup et très bien. Et donc, on n'a certainement pas fini encore de comprendre tout l'apport qui a pu être le sien donc à la recherche. Vous pourrez retrouver cette émission dans le programme de Canal Académie et en libre téléchargement. Je vous remercie.